Théologie biblique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 28 mai 85.
Nous allons continuer cette lecture de l'Exode. Entre ce moment très particulier où Moïse, sur le sommet de la montagne, reçoit les tables de la loi. Et pendant l'absence de Moïse, le peuple d'Israël fait un complexe d'orphelins. Ils sont abandonnés. Ils sont comme abandonnés. Moïse ne reviendra plus. Il y a eu un rapte divin. Alors il se retourne sur Aaron. Et Aaron, de toute façon très curieuse, et là il y a sûrement quelque chose de très important à saisir. Aaron se laisse prendre au piège. Parce que Aaron marche avec eux pour faire ce veau d'or. On est devant une épreuve. Hein. Toujours, quand il y a une absence, il y a une épreuve. L'absence de Moïse, l'absence de celui qui est le médiateur, au sens très très fort. L'absence de celui qui est médiateur envoyé par Dieu, pour son peuple, pour le sauver. Il l'a sauvé une première fois, par rapport au Pharaon. C'est plus facile. C'est-à-dire par rapport à l'ennemi visible, hein, par rapport à celui qui est en opposition vis-à-vis du peuple de Dieu, vis-à-vis du tyran. Toute espèce d'idéologie tyrannique, c'est le pharaon. Toute espèce d'idéologie orientée uniquement vers l'efficacité, c'est le pharaon. Le pharaon représente ça. Il faut les 10 plaies d'Égypte pour le corriger, c'est-à-dire qu'il est incorrigible. Parce que de fait, il est incorrigible, le pharaon. Parce que la dernière plaie a été violente, a tué les premiers-nés, et le pharaon a accepté à ce moment-là. Mais il a vite, très vite, repris. Il a fallu l'enfouir avec toute son armée. Donc il est incorrigible. Pas très loin, du reste, ça. Les idéologies d'efficacité pure sont incorrigibles. Pas la peine de vouloir les corriger, elles sont incorrigibles. Il faut les fourrer dans la mer rouge, dans la mer des roseaux. Et il faut l'action directe de Dieu. Autrement, impossible. Toute correction, impossible. Non est-ce qu'à pax, par rapport au baptême. On ne peut pas les transformer et les utiliser. C'est intéressant. Une fois qu'ils sont au désert pour adorer Dieu, ils sont au désert pour adorer Dieu, pour redécouvrir le sens de leur finalité. Le peuple d'Israël est le peuple choisi par Dieu pour être un peuple qui adore. Et Dieu le conduit au désert pour l'éduquer. C'est la grande théologie de l'éducation. Dieu donne les tables de la loi. Les tables de la loi n'ont pas d'autre sens, saint Paul nous le dit, pour une pédagogie. C'est une pédagogie divine. Cette pédagogie divine commence par le point de vue de l'adoration, parce que c'est une pédagogie religieuse. C'est une éthique religieuse, l'éthique que Dieu donne à son peuple. Ce n'est pas une éthique humaine, c'est une éthique religieuse. Elle est humaine, mais elle est religieuse en premier lieu. Ce n'est pas une éthique laïque, ce n'est pas une éthique de l'amitié en premier lieu. C'est une éthique de l'adoration. Et avec l'adoration est donnée l'étape de la loi. Mais les tables de la loi sont données dans un climat contemplatif. Dieu aurait pu très bien donner les tables de la loi à Moïse sans exiger de Moïse cette séparation d'être sur le mont Sinaï pendant un certain temps. Un temps trop long au point de vue prudentiel. Moïse a été trop longtemps séparé de son peuple au point de vue de la prudence, c'est-à-dire au point de vue des résultats. Mais comme Moïse est conduit par le Saint-Esprit, nous devons dire que c'est bien. Il a agi sous la mouvance de Dieu. Il n'a pas du tout agi d'une façon qui n'était pas ce qu'il aurait dû faire. Il a agi sous la mouvance de Dieu. Mais cette action sous la mouvance de Dieu a été trop dure à porter. Comme c'est intéressant de voir ça. L'adoration ne suffit pas pour accepter certaines absences. Il faut la contemplation. Et l'éducation du peuple d'Israël, de l'adoration, conduit normalement à la contemplation. Et la contemplation, il seul est entré dedans. C'est très platonicien, oui, sous certains aspects. Hein, c'est tout à fait. Il est sorti de la caverne pour aller sur le mont Sinaï. Faites le parallélisme, et c'est intéressant à voir ça. Il est sorti de la caverne pour aller sur le mont Sinaï. Et là, il a été illuminé. Et les autres sont restés dans les ténèbres de la caverne. Ils ont cru qu'on les oubliait. Ils ont fait un complexe terrible d'abandon. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le retour en arrière. On perd le sens de la finalité. Et c'est le retour en arrière. C'est la seule chose qui demeure. Celui qui conduit est absent, celui qui illumine est absent, le contemplatif qui montre la route est absent. Alors, il y a le repliement, un repliement terrible, c'est ce qui nous est montré, un repliement terrible qui fait qu'on s'est dit non. On nous a conduit vers quelque chose qui était trop élevé. Retour aux oignons d'Égypte. Et ce retour vers le point de vue de l'Égypte veut se faire d'une façon religieuse. C'est ça qui est extraordinaire. Par le point de vue du veau d'or. Yahvé parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. » Donc, perversion. Ils se sont écartés bien vite de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont sacrifié, et ils ont dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Cette caricature par rapport à Yahvé. Ils ont voulu un médiateur visible, le veau d'or. Et c'est très curieux, dans cette espèce d'attitude de retour, ayant perdu le sens de la contemplation, ayant perdu le sens de la finalité, ils se sont repliés sur eux-mêmes, voulant retourner vers quelque chose de déjà connu. Mais en même temps, parce qu'ils étaient conduits au désert pour l'adoration, il faut aussi garder cela. Et alors, il faut le transformer. Et il faut le transformer par le point de vue du veau d'or. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient plus purs, il n'y avait pas de veau d'or. L'expérience du désert, l'expérience de l'adoration, ils veulent la garder, mais en la pervertissant. Très intéressant à voir ça. Je crois que là, il y a quelque chose de très extrêmement intéressant, qui on sent très bien, selon l'Écriture, joue un rôle très important. C'est la grande tentation qui est eue à ce moment-là. La grande tentation pour le peuple religieux, qui n'a pas voulu accéder à la contemplation. Hein? Si on n'accède pas à la contemplation, on ne tient pas. Et il y a des absences telles qu'on va se construire un veau d'or. Et à ce moment-là, on n'est plus dans la ligne voulue par Dieu. Je crois ça très important. Quelqu'un qui est appelé à la contemplation ne peut plus retourner en arrière. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et c'est pour ça que le chrétien qui oublie sa vocation de chrétien descend plus bas que le païen qui n'a pas connu cette vocation à l'état aussi pur. On voit très très bien que le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, il était sous le point de vue de la tyrannie, il souffrait. Il gardait une certaine limpidité du cœur, à tel point que Dieu a eu pitié de lui, il a voulu le conduire en Égypte, il a voulu le conduire au désert. Quand il est au désert et qu'il n'entre pas pleinement dans cette adoration ordonnée à la contemplation, parce que si cette contemplation avait été vécue comme ordonnée à la contemplation, ils auraient compris l'absence de Moïse. Ils auraient compris qu'il était là pour porter, pour aider. Ils auraient leur regard tourné vers ça. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Un petit complexe qui serait très intéressant à étudier, une fois, au point de vue psychologique, représente exactement ce complexe de ceux qui sont appelés à la contemplation, qui ne regardent plus cette contemplation, qui se replient. Et qui se replient d'une façon telle qu'il leur faut une présence. Le veau d'or, c'est une présence de Dieu tangible. On veut cette présence tangible, on n'accepte pas la présence invisible de la contemplation. On veut la présence tangible. Et alors c'est le veau d'or. Et alors ce n'est plus Dieu, parce que c'est évidemment, c'est plus Dieu. C'est l'idole qu'on construit. On se construit une idole pour avoir une présence de Dieu. Et c'est cette présence de Dieu qu'on s'est construite qui va directement contre la véritable adoration. C'est là où il faut se poser la question, peut-on parler d'un peuple religieux sans la contemplation ? Enfin, toutes les applications, une vie religieuse qui n'est plus contemplative, construit un veau d'or. Voyez le nombre de veaux d'or que la vie religieuse s'est construite quand elle n'est plus contemplative. C'est très intéressant de voir ça. Voyez bien comment on construit le veau d'or, hein. Aaron leur dit, alors c'est très curieux parce que Aaron tombe dans le panneau. Aaron c'est quand même quelqu'un de bien. Mais c'est pas Moïse. C'est quelqu'un de très bien. D'une certaine manière, c'est le bras droit de Moïse. C'est le sacerdoce. Tiens. Mais c'est pas la contemplation. Celui qui a une fonction. quand ils disent « Debout, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il lui a. » C'est l'absence. Il est loin, il ne nous a pas laissé de signe, il n'a plus de signe. Aaron leur dit, arrachez les anneaux d'or. Alors, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Comment se construit un veau d'or, hein? C'est quand même très intéressant. Sous la conduite d'Aaron, donc on n'a pas de conscience. Très bonne conscience. On a un curé avec nous. C'est extraordinaire. On a un théologien avec nous. Aaron. Arrachez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, c'est facile, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. On prend le bien de tous ceux qui sont à côté de nous. On arrache tout ça. Tous arrachèrent les anneaux d'or qu'ils avaient aux oreilles et les apportèrent à Aaron. Alors, il faudrait comprendre ce que c'est que les anneaux d'or aux oreilles, vous comprenez ? Un ornement, quelque chose qui n'est pas l'absolu nécessaire, mais qui flatte, un peu artificiel. Un veau d'or se fait à partir des choses un peu artificielles, qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas nous, c'est des choses artificielles. C'est toujours artificiel un veau d'or, ça ne peut pas être autrement. Et jusqu'à la matière qui est artificielle. Il prit cet or de leurs mains, le façonna au burin et en fit un veau de métal fondu. Ils dirent, voilà ton Dieu. Ils dirent alors, voilà ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voilà la construction du veau d'or. La manière dont les hommes façonnent un idéal. Un idéal qui est une présence de Dieu pour eux. Avec le propre métal qu'ils ont donné, la propre matière qui vient d'eux. C'est très très intéressant, hein, au moins noter ça. Comment le veau d'or, symbolisme de l'idole construit à l'intérieur d'un peuple religieux, d'un peuple conduit par Moïse au désert, conduit par Dieu au désert, comment le veau d'or, symbolisme de cette idole, peut nous aider à comprendre que les chrétiens baptisés, appelés par Dieu à une vie, se sont construits des idoles avec leur propre idéologie. Et se sont construits des veaux d'or, multiples et divers. Le métal venu d'eux. Hein. Le métal venu d'eux, vous voyez très bien, la matière, là, c'est toutes les philosophies qui sont sorties du christianisme. Qui sont sorties du christianisme. Et qui ont été des raptes par rapport à l'Égypte. Encore mieux. Toutes ces philosophies qui ont été des raptes. À un moment donné, on en construit des veaux d'or et des idoles. Et ceci parce que la contemplation n'a plus existé. Parce que l'absence de Moïse a été insupportable. Et l'absence de Moïse a été insupportable parce que l'aspect contemplatif n'était plus en acte. Je crois qu'on peut saisir ça, et c'est très important pour nous, hein. C'est quand même quelque chose de capital. Le renouveau de la vie religieuse dans l'Église. Parce que c'est un fait, nous constatons ça. Et je prends cet exemple immédiat pour nous, parce que c'est ça qui nous intéresse, immédiatement de comprendre ça. Et c'est montré, hein, c'est dit d'une façon admirable. Je trouve ça affolant qu'Aaron soit tombé dans le panneau. spiritualité du contact. Il est tombé dans le panneau. Il a voulu aller jusqu'au bout, le plus loin possible, pour satisfaire ce bon peuple frustré à cause de l'absence de Moïse. Moïse les a trompés, quoi. Il a l'air de ne plus s'occuper d'eux. Ce que voyant, Aaron bâtit un hôtel, il est en pleine conscience, il est pur, Aaron, bâtit un hôtel devant lui, puis Aaron cria et dit, « Demain, fête pour Yahvé !» Extraordinaire. Il a baptisé le veau d'or. « Demain, fête pour Yahvé !» Et il veut la liturgie du veau d'or. Dès le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit et des sacrifices de paix. La béatitude des pacifiques, c'est le don de sagesse, vous voyez ça. On va avoir une petite contemplation bien paisible autour du veau d'or. Ils présentèrent des sacrifices de paix, le peuple s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez, tout est repris dans un style qui n'est plus selon Dieu. Une nouvelle liturgie, c'était bien évident, où l'on boit et on mange, et on se divertit. À la place d'être à la maison de Dieu, ça vient à la maison du peuple. Et c'est ça, on boit, on se divertit. C'est très heureux. Une liturgie de l'immanence, vous voyez, à la place de la transcendance. C'est l'immanence complète. C'est ça les idoles. Tout vient de l'homme, tout est fait par l'homme. Et alors à ce moment-là, on se fait... Et c'est très important de voir, si on regarde attentivement, d'où ça vient. Ils n'ont pas supporté l'absence de Moïse. C'est l'absence de Moïse. Dieu a été trop loin, il a manqué prudence. Et pourtant, Moïse a été sous l'action de Dieu. Dieu ne reproche rien du tout à Moïse. Yahvé parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as monté du pays d'Égypte, ton peuple, c'est le peuple de Moïse, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est perverti. » Vous voulez savoir le mot exact hein, en hébreu. « S'est perverti. » Alors, l'hostie dit « ton peuple » et non « mon peuple » pour marquer que Yahvé se désolidarise de la nation pécheresse. Oui, sans doute, mais aussi pour montrer que le médiateur est responsable de son peuple. Je ne crois pas que Dieu se désolidarise de cette façon-là, parce qu'alors ce serait contre la fidélité. Dieu va continuer de le punir, donc ça prouve qu'il est toujours son peuple. Mais il est le peuple de Moïse, pour montrer la responsabilité de Moïse. C'est au moment de crise où on comprend sa responsabilité, hein, faut pas l'oublier. C'est toujours à ce moment-là. Dieu qui dirait hein, à toutes les hiérarchies, regarde ton peuple, ton église, voilà ce qu'elle fait. La voie prescrite était l'ordre de ne pas fabriquer de statue de Dieu. Il est tombé dans la prévarication, il est tombé dans la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont écartés bien vite de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui. Ils ont sacrifié et ont dit, voici ton Dieu Israël. Yahvé dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple à la nuque raide. Ah, voilà le jugement de sagesse de Dieu. Il a la nuque raide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hein? Trop facile de l'avoir chez le voisin, il faut l'avoir chez nous. La nuque raide, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je crois que la nuque raide, c'est quand on a un projet à la place d'avoir l'obéissance. C'est le petit projet qu'on s'est construit. Ça doit être comme ça. Moïse devait être là toujours présent. L'absence de Moïse n'était pas prévue. Alors, ils ont leurs idées, et dès qu'on a une idée, on a la nuque raide. Vous voyez bien, le Saint-Esprit veut que nous ayons une nuque qui ne soit pas raide. Avoir la nuque raide, c'est un manque de vitalité religieuse et de sainteté. Alors on est endurci, on est déterminé. Et maintenant, laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux et que je les extermine, tandis que je ferai de toi une grande nation. C'est toujours comme ça, Dieu vomit après le déluge. Hein. Les colères de Dieu, théologie de la colère de Dieu. Hein. Je vous ai dit d'avoir une fiche sur la théologie des colères de Dieu. Et c'est très important de comprendre cette théologie de la colère de Dieu. Parce que c'est un langage symbolique de comprendre ce que c'est que ces colères de Dieu. Dieu n'a pas de colère, c'est bien évident. Mais Dieu se met en colère quand il est en face d'une injustice fondamentale. Et l'injustice fondamentale, c'est que les hommes n'ont plus le sens de Dieu, n'ont plus le sens de la véritable adoration. Et ils remplacent l'adoration par des gestes extérieurs qui sont à peu près les mêmes, mais dont la signification est totalement changée. Et maintenant, laisse-moi, c'est très très joli de voir ça. Hein. Vous voyez, comme le peuple d'Israël est le peuple de Moïse, Dieu est obligé de demander à Moïse d'avoir la possibilité de le punir. Oui, c'est ça que le Père Hostie n'a pas vu. Il a vu trop vite ça. C'est pas ça du tout. C'est qu'il a confié son peuple à Moïse. Et donc, il est le peuple de Moïse. Et parce qu'il est le peuple de Moïse, il appartient à Moïse. Et Dieu respecte le principe de subsidiarité. C'est admirable, ça. Et maintenant, laisse-moi. Dieu demande la permission à Moïse de se mettre en colère contre son peuple. Ça va très très loin, vous savez ça. On comprend la parole de Jésus le soir de la résurrection, quand il donne l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux que vous retiendrez, ils sont retenus à ceux que vous retiendrez. La médiation, Dieu la prend au sérieux, et la prend très au sérieux, et le peuple d'Israël appartient à Moïse. Et parce qu'il appartient à Moïse, c'est le peuple de Moïse. Ce n'est pas uniquement le peuple de Dieu. C'était uniquement le peuple de Dieu, la médiation de Moïse serait uniquement quelque chose d'extérieur. Non. La médiation de Moïse fait que le peuple d'Israël est le peuple de Moïse. Et parce qu'il est le peuple de Moïse, parce que Dieu l'a confié à Moïse, parce que Moïse l'a sauvé des eaux, l'a sauvé du Pharaon et de la tyrannie du Pharaon, il appartient à Moïse. Et s'il appartient à Moïse, Dieu doit tenir compte de son alliance. Et donc Dieu demande la permission. C'est extraordinaire. Et maintenant, laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux et que je les extermine. Alors, pour que Moïse accepte, tandis que je ferai de toi une grande nation. C'est merveilleux. On flatte Moïse. Hein? On va tout reprendre avec toi. Comme on a, et c'est vrai, on a tout repris avec Noé. On va tout reprendre avec Moïse. Et à partir de Moïse, on aura une nation pure au moins. C'est très joli ce langage. Vous voyez, ça fait partie de ces colères divines et de ce langage qui est de anthropomorphique. Dieu ne flatte jamais. Mais quand vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, vous le flattez. Toi, au moins, tu es resté fidèle. Toi, au moins, tu es resté fidèle. Vous voyez, Dieu n'emploie plus ce langage-là. Il aurait pu employer ce langage-là à Saint Jean, à la croix. Toi, au moins, tu es resté fidèle. C'est parce que tu es resté fidèle que je te donne ma mère. Hein. Alors, à partir de toi, tout va être pris. Les autres, on laisse tomber. C'est très curieux. Vous voyez la différence entre le langage de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Parce que ça, on voit bien ici. Jean est médiateur à la croix. Jean représente tous. Et Dieu ne prend pas ce langage-là. Tandis qu'ici, il l'emploie. Pourquoi ? Pourquoi Dieu emploie-t-il ce langage ? Et maintenant, laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux et que je les extermine tandis que je ferai de toi une grande nation. Je crois que c'est la question de la justice. Alors que dans la Nouvelle Alliance, c'est la miséricorde qui passe devant. C'est que là, c'est la question de la justice. Et alors, c'est la question de la justice. C'est toujours la justice qui provoque les colères. C'est quand vous avez un très grand sens de la justice que vous vous mettez en colère. C'est pour ça que l'irascible est proche de l'intelligence pratique. Quand vous avez une intelligence pratique très développée dans un domaine, vous avez très fort le sens de la justice et de l'ordre de la justice. Et quand vous voyez quelqu'un qui piétine les plaintes, piétine les plates-bandes, alors que vous ne vouliez pas qu'il les piétine parce que vous aviez mis des petites semences merveilleuses dedans, vous entrez en colère, espèce d'âme. Tu ne vois pas que c'est, ça devrait être comme ça. Les outils doivent être placés comme ça. Hein? Alors vous mettez en colère devant cette espèce d'ignorance et de bêtise. De quoi se mettre en colère toute la journée, depuis le début jusqu'à la fin, quand vous voyez cette espèce d'ignorance et de désordre par rapport à la justice. L'Ancien Testament sera en colère tout le temps. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament n'existait pas la vie religieuse, parce que ça aurait été insupportable. Alors, c'est dans la Nouvelle Alliance où existe la vie religieuse, parce qu'elle n'est supportable que dans la miséricorde. Ça en dit très long, ça. C'est quand j'ai le sens de la justice et que je vois qu'un ordre de justice n'est pas respecté que je me mets en colère. La colère, c'est toujours quand je suis en face d'un désordre. Vous voyez, nous avons des sensibilités différentes, chacun d'entre nous, des vulnérabilités différentes. On a chacun d'entre nous un sens d'un certain ordre de justice. Dans l'ordre pratique, nous sommes très spécialisés dans l'ordre pratique, de la menuiserie ou de la métallurgie. Nous sommes très très spécialisés là-dedans. Ou la mécanique. Alors on sent très fort de ça. Nous avons un sens très très fort de la justice au niveau de la vérité. C'est évident qu'un forgeron pourra lire des hérésies théologiques sans se mettre en colère. Tandis qu'un théologien qui a le sens très aiguisé de la recherche de la vérité, qui verra un théologien dire des grosses bêtises, il se mettra en colère. Et inversement, le théologien voyant un désordre au niveau de la forge ne se mettra pas en colère. C'est peut-être tout le temps comme ça, après tout, je ne sais pas moi. Il n'a pas le sens de la cause exemplaire de celui qui doit forger. Tandis que celui, au contraire, qui a le sens de la cause exemplaire et qui voit que ce n'est pas en ordre, se met en colère. Oui. Psychologiquement, c'est très intéressant de saisir les domaines dans lesquels vous vous mettez en colère. Hein. Faites un petit peu le compute durant la journée. Et là où vous vous mettez en colère, ça prouve que vous avez des vulnérabilités intellectuelles et affectives très particulières dans ce domaine-là. Et c'est parce que vous connaissez ces matières. Alors corrigez-vous en disant, mais il y a beaucoup d'autres matières où je suis complètement incompétent. Alors je vais essayer de me corriger, parce que ce n'est pas la peine de se mettre en colère depuis le début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Hein. Ça n'avance à rien du tout et ça provoque des tensions. Alors il faut se corriger soi-même. Se corriger soi-même, c'est découvrir ces vulnérabilités particulières qu'on a dans tel ou tel domaine. Et comprendre que dans d'autres domaines, nous n'avons pas de vulnérabilité, alors on essaie d'étudier ces domaines-là pour que nos vulnérabilités puissent se compenser. petite tactique très simple et très importante pour corriger ses colères. Je ne vous demande pas de supprimer votre irascible, c'est bon. Celui qui ne se met jamais en colère, il est insupportable. C'est vrai, ça. C'est... Il faut pouvoir se mettre en colère de temps en temps quand on est en face d'un désordre quand même, hein. Parce qu'il y a des gens auxquels vous pouvez marcher sur leurs pieds depuis le matin jusqu'au soir, ils sont insensibles. Ils ne sont pas sains, mais ils sont insensibles à vouloir marcher sur les pieds du matin jusqu'au soir. L'insensibilité n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est de tout assumer dans un ordre de sagesse. Alors, tous les ordres inférieurs sont assumés dans un ordre supérieur. Il y a un ordre de sagesse qui est l'ordre de l'amour et qui est l'ordre de l'Esprit Saint. Alors ça, c'est la sagesse. Vous êtes très conscient de son irascible et très conscient de ses colères. C'est la grande manière de s'en corriger. Et de comprendre que dans certains domaines, on est particulièrement irascible. On a des vulnérabilités très très fortes. Il faut les corriger, ça. Parce que c'est pas drôle, hein, d'avoir des racines qui... Surtout dans le domaine d'aujourd'hui, parce que c'est le propre de notre monde d'aujourd'hui, c'est que les racines passent très vite à l'exécution. Nos grands-pères étaient vertueux, nous ne le sommes pas. Nos grands-pères étaient vertueux, alors ils pouvaient se mettre en colère intérieurement, et ça ne se manifestait pas. Tandis qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas vertueux, c'est un fait, depuis Freud. Freud a supprimé la vertu, alors nous ne sommes plus vertueux, et alors le propre de l'irascible passe tout de suite à l'exécution. On tabasse le voisin. La colère, on passe tout de suite. Et c'est vrai que c'est pas très drôle, je me souviens, c'était à Fribourg, je voyais un gars que j'aimais beaucoup, et qui entrait dans des colères. Qui n'était pas sainte, mais qui est entré dans des colères. Et alors, il avait un gros fauteuil. Quand son père était là, il prenait le fauteuil. « Je vais te... » Alors, elle s'en avait une fougue intense à ce moment-là. Moi, je comprenais très, très bien. Il faut prendre conscience des colères qu'on peut avoir. Et ces colères, on doit les dépasser dans un regard de sagesse. Acquérir la vertu de force. La vertu de force canalise nos colères. C'est beau de voir la colère de Dieu. Moi, je trouve ça très, très beau. Ce passage est extraordinaire. C'est dans l'Ancien Testament qu'on a le plus la théologie de la colère de Dieu. Et on pourrait dire que l'Ancien Testament nous montre ces grandes colères de Dieu. Moïse apaisa la face de Yahvé. C'est ce qu'il y a de plus grand dans Moïse. C'est d'apaiser la face de Yahvé. Voyez ça, le médiateur. Il doit apaiser la face de Yahvé. Alors, comment apaise-t-il la face de Yahvé? C'est pas dit. Ou plus exactement, on explique un tout petit peu. Il faut bien le comprendre. Il apaisa la face de Yahvé, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Yahvé, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple ?» Moïse qui pose un pourquoi à Dieu. C'est audacieux. Pourquoi nous as-tu fait cela? Le pourquoi de Marie. Après les 3 jours de séparation. Et à son fils. Et à son Dieu. Pourquoi y avait ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple? Alors ça c'est très beau. Dieu dit à Moïse, ton peuple, et Moïse dit à Dieu, ton peuple. Hein, il se renvoie la balle, là, merveilleusement. Pourquoi y avait ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande vigueur et par une main forte? L'astuce de Moïse, hein, c'est une astuce contemplative, hein, faut comprendre, c'est dans un langage évidemment merveilleux, comme la prière d'Abraham. Alors on retrouve ici aussi un langage merveilleux, plein d'astuces, plein d'intelligence, mais c'est contemplatif. C'est de rappeler à Yahvé tout ce qu'il a fait pour son peuple. Yahvé a fait des choses étonnantes pour son peuple. Donc il a montré là son amour. Donc c'est rappeler l'amour. Qu'est-ce qui apaise la colère? C'est l'amour. Au fond, la colère, c'est toujours un amour malheureux. Toujours. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui se met en colère, il faut toujours avoir une très grande miséricorde, parce que c'est un amour malheureux. C'est quelqu'un qui ne supporte pas cet amour malheureux, qui ne supporte pas l'échec d'un amour. Alors il faut rappeler à ce moment-là un amour heureux. Quel est l'amour heureux? Mais c'est quand le peuple d'Israël a quitté le Pharaon. Et ça, c'est Dieu qui a fait ça. Ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, la grande miséricorde de Yahvé pour son peuple, par une grande vigueur et par une main forte. C'est à ce moment-là qu'on a vu la main forte, la vigueur, la grande vigueur de Dieu pour son peuple. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Alors il y a les deux pourquoi, hein. Le pourquoi à l'égard de Dieu, et dans le pourquoi à l'égard de Dieu, on lui rappelle son amour, on lui rappelle sa miséricorde. Vous voyez le regard contemplatif? C'est rappeler la miséricorde de Yahvé par rapport à son peuple. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface du sol. Alors, par rapport aux Égyptiens, qui sont les ennemis, on montre que cette colère va donner raison à l'ennemi. Très astucieux, c'est très très beau, c'est ces deux aspects de l'intervention de Moïse. Ça, c'est l'intelligence de Moïse, hein, mais l'intelligence contemplative. Il veut réconcilier Dieu avec son peuple. Et réconcilier Dieu avec son peuple, c'est lui rappeler la première miséricorde, et c'est lui rappeler qu'on est en temps de guerre. Quand on est en temps de guerre, on n'a pas le droit de se payer certaines colères. Quand on est en temps de guerre, les colères qu'on seraient une perte de temps, et l'ennemi en profiterait. C'est très curieux ça, et ça c'est très intéressant. C'est très intéressant et c'est très fort. C'est qu'on croit toujours qu'on est en temps de paix. Et on oublie qu'on est en temps de guerre. Que l'ennemi veille toujours. Les Égyptiens, c'est l'ennemi, c'est le démon. Alors, on n'a pas le droit de faire certaines choses parce qu'on est en temps de guerre. Et c'est ce qu'on rappelait ici. Donc il y a une tactique merveilleuse de l'Esprit Saint sur Moïse comme médiateur. C'est très très beau ce rôle du médiateur, vous voyez, qui rappelle à Dieu l'importance de son geste. Et parce qu'il a sauvé son peuple, il est responsable de lui, il doit le garder. Il n'a pas le droit de ne pas le garder. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est audacieux, hein, de Moïse par rapport à Yahvé. C'est une audace folle. Si Abraham est très audacieux à l'égard de Dieu, Moïse est encore beaucoup plus audacieux. Ça, c'est très curieux. Vous voyez, c'est l'ami à l'égard de son ennemi. Catherine de Sienne à l'égard de Jésus, qui dit « Je veux ». Moïse dit ça aussi. Il dit « Je veux ». Repens-toi, hein. C'est net. De l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel et tout ce pays que dont j'ai parlé, je le donnerai à votre descendance. Ils en hériteront à jamais. » Troisième aspect, la fidélité. Mais le troisième argument, le dernier argument, l'argument le plus fort, la fidélité. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est le grand argument. Dieu a promis. Dieu a fait une alliance. Et Dieu est fidèle. Autrement, il ne serait plus Dieu. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ». La promesse de la fécondité, c'est la promesse la plus grande, c'est la promesse de la fécondité. Et c'est cette promesse de la fécondité, puisque la fécondité c'est la surabondance de l'amour, c'est cette promesse qui porte sur la surabondance de l'amour. C'est très fort ça. Vous voyez, pour nous, hein, c'est tout le sens de la Pentecôte. Jésus a promis d'envoyer le paraclet. C'est ça la nouvelle alliance. Il a promis d'envoyer le paraclet. Et puisqu'il a promis d'envoyer le paraclet, souviens-toi de ta promesse. La prière de Marie demandant que la promesse soit réalisée. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas vivre sans la réalisation de cette promesse. Et cette promesse est une promesse de la surabondance de l'amour, de la fécondité. Fécondité intérieure, fécondité spirituelle, mais fécondité. L'Église ne peut vivre que si elle vit dans cette fécondité de l'Esprit-Saint. Si elle ne vit plus dans cette fécondité de l'Esprit-Saint, elle se replie sur elle-même et elle entre en colère. C'est très curieux, ça. Parce que c'est ça qui nous est montré ici. Hein. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donnerai à votre descendance et ils hériteront à jamais. » Yahvé se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Yahvé se repentit. L'efficacité de la prière de Moïse. Cette prière de Moïse est tellement forte qu'elle agit sur la volonté de Dieu. Alors, vous voyez, comme mauvaise théologie. Hein? C'est admirable, ça. C'est heureusement que c'est révélé. Non, parce que si on faisait ça, le Saint-Office dirait mauvaise théologie. Vous ne pouvez pas changer la volonté de Dieu. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça, vous voyez? Le livre du Père Garrigue. Vrai? Lire ça en face de ce livre. Dieu n'a pas d'idée du mal. Il a dit ça. Yahvé se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Pas trop simplifié. Il y a quelque chose là qui est quand même extraordinaire. Je sais très bien, c'est un langage symbolique, oui, mais c'est un langage symbolique divin, il existe. Et il est dit, Yahvé se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple, donc il avait décidé de faire ce mal. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que il y a Calvin d'une part, je ne dis pas qu'il y a Père Garrigue de l'autre, ce ne serait pas tout à fait juste de dire ça, mais il y a Calvin d'une part, et puis une certaine manière de regarder, qui est peut-être trop simple. Calvin dit, il y a en Dieu des décisions de condamnation. Il fait une condamnation positive. C'est la théorie de Calvin. À propos de la prédestination. Mais c'est la prédestination ici, quand même. Hein. C'est le regard sur le peuple. Il veut l'exterminer. Ben, ça touche la fin. Exterminer, c'est supprimer. Calvin dit Dieu condamne. Dieu prédestine et Dieu condamne. Alors, l'Église dit non. Pas de condamnation positive. Dieu veut sauver tous les hommes. Si Dieu veut sauver tous les hommes, le regard de Dieu est toujours positif. Oui, c'est sûr. Le regard de Dieu est toujours positif. Il est toujours un regard d'amour. C'est là où le Père Garrigue a raison. Mais c'est un regard d'amour. C'est du côté de l'amour que c'est toujours positif. C'est du côté de l'amour que nous pouvons comprendre ça, ce côté positif, toujours. Mais ce symbolisme qui nous est montré ici nous fait comprendre que là nous touchons un très grand mystère. Et qu'il y a ce qu'on appelle en théologie des permissions de Dieu. La permission de Dieu, c'est Dieu qui respecte la liberté de l'homme. C'est la connaissance, Dieu qui respecte la permission, la liberté de l'homme. C'est du côté de la connaissance. Dieu sait que l'homme est capable de se détruire. Dieu sait que l'homme est capable de pécher. Dieu sait que l'homme est capable de construire le veau d'or. Et il y a la permission de Dieu. Jusqu'à Aaron, la permission de Dieu. Hein? S'il était tombé sur notre dos, la permission de Dieu, on serait tous partis, mais ça, on serait merveilleux. La permission de Dieu d'aller jusque-là. Alors, est-ce que cette permission de Dieu implique-t-elle connaissance de la négation? Et ça, le point de vue très délicat. Dieu permet le mal. Alors, quand vous permettez le mal, êtes-vous complice du mal? Humainement, quand vous voyez quelqu'un qui va faire une grosse bêtise, et vous dites, ah, c'est pas mon affaire. Et vous le laissez. Vous êtes complice. Qu'est-ce que ça veut dire, la permission de Dieu? Dieu permet toujours en vue d'un plus grand bien. Toujours. Alors la permission de Dieu, c'est Dieu qui laisse l'homme libre parce qu'il y a une alliance de Dieu avec l'homme, une alliance d'amour qui le laisse libre. Et qui le laisse libre pour un plus grand bien, pour qu'il soit capable d'aimer librement. Yahvé se repentit du mal. Alors voyez bien comment il faut comprendre. C'est pas le mal qu'il veut. C'est pas la mort de l'homme qu'il veut. Mais ce qu'il veut, c'est que son peuple redécouvre le sens véritable de l'adoration. Et que son peuple ne soit pas dans cette attitude de révolte et d'orgueil. Il a permis cela. Mais il ne peut pas l'accepter. Il l'a permis en vue d'un plus grand bien. Et ce plus grand bien va se faire par Moïse. Par la médiation de Moïse. Ce plus grand bien se fait par la médiation du Christ. Ce plus grand bien se fait par la médiation de Marie. Ce plus grand bien se fait par la médiation des saints. Ce plus grand bien se fait par la médiation de chacun d'entre nous. Ça, c'est la médiation divine. Dieu veut que nous soyons des médiateurs, comme Moïse. Hein. C'est pour ça que c'est si important de comprendre cette médiation de Moïse dans toute sa force, dans toute sa puissance. Yahvé se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Se repentir, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu laisse à Moïse une place efficace dans son plan divin. Dieu veut que Moïse agisse. Dieu veut que ses médiateurs soient responsables et agissent. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Et Dieu s'efface. Mais ça fait partie de ces effacements de Dieu. Mais il se tourna et descendit de la montagne. Il se tourna. Il tourne le dos à Dieu, vous voyez ? Donc il quitte sa contemplation. Chaque fois que vous quittez votre contemplation, vous vous tournez vers les hommes. Jusque-là, il est dans un face-à-face vis-à-vis de Dieu. Et dans sa contemplation, il a porté le peuple, il a supplié Dieu d'intervenir. Mais il se tourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Tables écrites sur leurs deux côtés, écrites de part et d'autre. Ah, ces tables si précieuses, reçues de Dieu. Cherchez pas comment, hein. Les exégètes le cherchent très bien, ils ne trouveront pas. Ils ne trouveront pas. On ne les a plus, ces tables. On cherche. On voudrait bien les retrouver. Ce serait merveilleux de les retrouver. Les tables étaient l'œuvre de Dieu. Ergon tout et où. Hein? C'était l'œuvre de Dieu. Opus Dei. Les tables étaient l'œuvre de Dieu. Et ce qui était écrit était un écrit de Dieu. Gravé sur les tables. Un écrit de Dieu. Une œuvre de Dieu. C'est tout le poids d'amour qu'il y a là. Hein. Dieu éducateur de son peuple. Dieu qui se fait pédagogue de son peuple. Par les tables de la loi, par Moïse. Josué entendit la rumeur du peuple avec ses acclamations et dit à Moïse, « Rumeur de guerre au camp. » Rumeur de guerre au camp. Guerre, vous comprenez bien, c'est la fête, hein, c'est la fête. Alors la fête, pour eux c'est la fête. Pour Josué et Moïse, rumeur de guerre au camp. Les deux plans. Cette fête qui est une fausse fête, qui est une fausse liturgie, rumeur de guerre au camp. Moïse dit, ce n'est pas une rumeur de chant de victoire. Ce n'est pas une rumeur de chant de défaite. C'est une rumeur de chant alterné que j'entends. Cette fausse liturgie. Lors donc qu'il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Alors la colère de Dieu passe à travers Moïse, allez dire les narines de Moïse, hein, on voit très très bien ça. Ça passe à travers Moïse. Et c'est très beau, c'est l'esprit d'Yahvé qui passe à travers. Il a calmé Yahvé, il a voulu calmer Yahvé en portant sur lui toute la responsabilité. C'est ça le médiateur. Et alors la colère de Dieu passe dans la colère de Moïse. La colère de Yahvé, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. L'œuvre de Dieu ne peut pas être donnée au peuple d'Israël. On ne donne pas les perles aux pourceaux. Exactement ça. Les perles, la table de la loi, œuvre de Dieu. Les pourceaux sont ceux qui, de fait, ont complètement transformé l'œuvre de Dieu en une œuvre impie. L'adultère. Ou des fidélités dans l'ordre de l'adoration. C'est pour ça que c'est les pourceaux. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué. Il le brûla par le feu, le pilla jusqu'à ce qu'il fût réduit en poussière. Vous voyez la différence des graisses qui sont brûlées pour Dieu et que Dieu aime, et ici. Ce n'est pas précisément les graisses. C'est l'or que tout son prix, il faut le réduire en poussière qu'il dissémina à la surface de l'eau. Il en fit boire au fils d'Israël. C'est une homéopathie divine très particulière, ça, c'est extraordinaire. Ça. Il doit boire cette eau dans laquelle on a mis le point de vue de cet or pour les guérir. Extraordinaire, ça. Colère de Yahvé, cette colère de Moïse, qui est la colère de Dieu, qui passe par Moïse, qui détruit le veau d'or. Et il veut qu'ils soient eux-mêmes liés à cette colère, à cette sainte colère, à cette correction. C'est un passage très très grand. C'est un passage très très grand sur lequel il faut souvent méditer, parce que c'est à l'intérieur même du peuple religieux la corruption de l'attitude religieuse.